Rivage, un podcast en flottaison entre terre et mer.
Des apnéistes, des coureurs et des coureuses au large, des philosophes, des architectes, des artistes. Sur la côte comme au large, le rivage rythme leur existence et leur pensée. On les écoute sur Rivage. Elle aime la littérature baignée de lumière, le doux soleil de Méditerranée et les plages sauvages d'Irlande. Parfois, il lui arrive de s'isoler pour écrire. Entre deux échappées sur nos rivages, Alette Mondula nous propose ses respirations littéraires depuis Marseille, où elle œuvre à la préparation de la Biennale d'art contemporain Manifesta. Avec ses mots sensibles et sa pensée poétique, elle nous décrypte les textes de ceux qui aiment la mer, la contemplent et s'en inspirent. Respirer, elle lit pour nous maintenant.
Des respirations littéraires de rivage, des coups de cœur, des coups de beau, des textes choisis pour nous permettre de regarder la mer différemment, d'y plonger plus profondément, à travers le regard d'écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un extrait des Îles de Jean Grenier, un petit livre paru en 1933. Albert Camus, le grand Albert Camus, eut Jean Grenier comme professeur de philosophie à Alger dans les années 1930 et il en fit son maître à penser. Un amoureux de la lumière et de la splendeur, nous dit-il, comme lui. Et des Îles, il en fit le point de départ de sa vocation littéraire, la révélation sensible de sa jeunesse. C'est ce texte qui lui permit enfin de comprendre le monde, sa beauté, sa fugacité, sa mélancolie, comme la nécessité d'imaginer un ailleurs. Car c'est d'ailleurs et de voyages imaginaires dont parlent les îles, une quête d'île en île, et que nous inspire la mer, sinon le voyage. Ce que vous allez découvrir n'est pas forcément très gai, vous m'en excuserez, mais cet extrait décrit ce sentiment si rare de plénitude qui parfois nous saisit. Cette sensation d'un coup de ne faire qu'un avec l'univers, celle-là même que l'on peut ressentir devant l'infini de la mer. Un texte un peu daté peut-être, nébuleux parfois, mais laissez-vous porter et vous voyagerez de chez vous, en Italie et en Espagne, et vous goûterez peut-être à l'expérience de l'infini. Vous êtes bien installé? Allons-y. Les îles de Jean Grenier, un extrait. Les îles Fortunées. On vous demande pourquoi vous voyagez. Le voyage, peut-être, pour les esprits qui manquent d'une force toujours intacte, le stimulant nécessaire pour réveiller les sentiments qui, dans la vie quotidienne, sommeillaient. On voyage, alors, pour recueillir en un mois, en un an, une douzaine de sensations rares, j'entends celles qui peuvent susciter en vous ce champ intérieur, faute duquel rien de ce qu'on ressent ne vaut. On passe des jours à Barcelone à visiter des églises, des jardins, une exposition, et il ne vous reste de tout cela que le parfum des fleurs opulentes de la Rambla San José. Était-ce donc bien la peine de se déranger? Évidemment, oui. Quand on a lu Barès, on se figure Tolède sous un aspect tragique et on cherche à s'émouvoir en regardant la cathédrale et les Gréco. Il vaut mieux errer à l'abandon, ou s'asseoir au bord des fontaines pour voir passer les femmes et les enfants. Dans les villes comme Tolède, Sienne, j'ai longtemps contemplé les fenêtres grillagées, les cours intérieures où coulent des fontaines, et les murs épais et hauts comme des remparts. La nuit, je me promenais le long de ces murailles aveugles comme si elles devaient m'apprendre quelque chose. Qu'y a-t-il derrière ces obstacles? Mais précisément, ces obstacles toujours présents. Ce mystère toujours soupçonné, quel nom donner à tout cela, sinon celui d'amour, d'une certaine sorte d'amour, pas celui des héros de George Sand, bien entendu. On peut donc voyager non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver. Le voyage devient alors un moyen, comme les jésuites emploient les exercices corporels, les bouddhistes l'opium et les peintres l'alcool. Une fois qu'on s'en est servi et qu'on touche au but, on repousse du pied l'échelle qui vous a servi à monter. On oublie les journées écœurantes du voyage en mer et les insomnies du train quand on est parvenu à se reconnaître, et par-delà soi-même, autre chose sans doute. Et cette reconnaissance n'est pas toujours au terme du voyage qu'on fait. À vrai dire, lorsqu'elle a eu lieu, le voyage est achevé. Il est donc bien vrai que dans ces immenses solitudes que doit traverser un homme de la naissance à la mort, il existe quelques lieux, quelques moments privilégiés où la vue d'un pays agit sur nous, comme un grand musicien sur un instrument banal qu'il révèle, à proprement parler, à lui-même. La fausse reconnaissance, c'est la plus vraie de toutes, on se reconnaît soi-même. Et quand devant une ville inconnue, on s'étonne, comme devant un ami qu'on avait oublié, c'est l'image la plus véridique de soi-même que l'on contemple. Les grands paysages lumineux de Toscane et de Provence, où l'on voit des plaines que l'on a peine à mesurer de l'œil et où pourtant tous les détails sont écrits, ces paysages à la Lorrain sont propices entre tous à ces révélations. Un ami m'écrivit qu'après un mois de voyage agréable, comme il se trouvait à Sienne et qu'il pénétrait à 2 heures de l'après-midi dans la chambre qu'on lui destinait, lorsque, les volets ouverts, il vit un immense espace où tourbillonnaient des arbres, des cieux, des vignes et des églises, cette admirable campagne que Sienne domine de si haut, et qu'il lui semblait voir par un trou de serrure, sa chambre n'étant qu'un point noir, alors il se mit à sangloter. Non pas d'admiration, mais d'impuissance. Il comprit, car je ne doute pas que ce fût un ébranlement de l'esprit plus que de cœur, il comprit tout ce qu'il ne pourrait pas faire, la vie médiocre qu'il était condamné à subir. Il vit réaliser en un instant le néant de ses aspirations, de ses pensées, de son cœur. On lui offrait tout, et il ne pouvait prendre rien. Il me dit qu'à cette limite, il avait pris conscience pour la première et la dernière fois du caractère définitif d'une séparation qu'il n'imaginait jusqu'ici que comme provisoire et que pourtant il avait été le seul à vouloir. Il est vrai que certains spectacles, la baie de Naples par exemple, les terrasses fleuries de Capri, de Sidi Bou Saïd, sont des sollicitations perpétuelles à la mort. Ce qui devait nous combler creuse en nous un vide infini. Les plus beaux sites, les plus beaux rivages sont plantés de cimetières qui ne sont pas là par hasard. On y voit le nom de ceux qui, trop jeunes, ont été pris de panique devant tant de lumière projetée en eux-mêmes. À Séville, si l'on néglige les palais, les églises, le Guadalquivir et le reste, la vie est agréable pour bien des raisons, mais on ne sent pas vraiment l'attrait profond du pays que lorsque, voulant monter au sommet de la Giralda, le gardien vous en empêche. Il faut être deux, vous dit-il, et pourquoi donc? Il y a trop de suicides. La beauté des grands paysages n'est pas proportionnée à la puissance de l'homme. Si les temples grecs sont minuscules, c'est qu'ils étaient bâtis comme refuge à des hommes qu'aurait égaré une lumière sans espoir, un spectacle sans mesure. Pourquoi dit-on d'un paysage ensoleillé qu'il est gai? Le soleil fait le vide et l'être se trouve face à face avec lui-même, sans aucun point d'appui. Partout ailleurs, le ciel interpose ses nuages, ses brouillards, ses vents, ses pluies et voile à l'homme sa pourriture sous le prétexte d'occupation et de préoccupation. J'admire la description que fait Rousseau de ses bonheurs à l'île Saint-Pierre. Il cite « Les époques des plus douces jouissances et des plaisirs les plus vifs ne sont pas celles dont le souvenir m'attire et me touche le plus. Ces courts moments de délire et de passion, quelque vifs qu'ils puissent être, ne sont cependant, et par leur vivacité même, que des points bien clairsemés dans les lignes de la vie. » Ils sont trop rares et trop rapides pour constituer un état. Et le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs, mais un état simple et permanent, qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme au point d'y trouver enfin la suprême félicité. Mais la suprême félicité que Rousseau croit avoir trouvée sur le lac de Bienne, et qu'il décrit si bien comme un état simple et permanent, ne peut-elle pas passer plutôt pour un engourdissement ? Rousseau essaie de se cacher sa misère et sa mort. Il me semble, moi, que la suprême félicité pour certaines âmes, que je ne puis qu'admirer, ne se sépare pas du tragique. Elle en est le sommet. Au moment où le tumulte d'une passion atteint son paroxysme, à ce moment même, il se fait dans l'âme un grand silence. Pour prendre un exemple proche, le silence de Julien Sorel dans sa prison. C'est aussi le silence des pèlerins d'Emmaüs, c'est le silence du grand matin de la Pentecôte. Je ne vois que Rembrandt qui les su exprimer complètement. On sent bien qu'une seconde après cet instant, la vie va reprendre. Mais en attendant, elle est suspendue à quelque chose qui la dépasse infiniment. Quoi ? Je ne sais. Ce silence est peuplé, il n'est pas l'absence de bruit ni d'émotion. Quand je vivais à Naples, j'allais tous les matins à la Villa Floridiana qui surplombe le golfe et je flânais en fumant des cigarettes jusqu'à l'heure où sonnait midi. Ces heures d'oisiveté m'ont rempli plus que les heures fiévreuses de Paris. Quel dommage que dans un décor si poignant, tout le monde ou presque soit en ce siècle occupé à travailler. On travaille à Paris, à Londres, passe encore. Mais partout où règne perpétuellement le soleil et la mer, il faut se contenter de jouir, de souffrir et d'exprimer à quoi bon remuer la boue de la planète quand on demeure au centre des choses. Et lorsque lentement sonnaient les coups de midi et que tonnait le canon du fort Saint-Elme, un sentiment de plénitude, non pas un sentiment de bonheur, mais un sentiment de présence réelle et totale, comme si toutes les fissures de l'être étaient bouchées, s'emparaient de moi et de tout ce qui était autour de moi. De tous côtés affluaient des torrents de lumière et de joie qui de vasque en vasque tombaient pour se figer dans un océan sans bord. En ce moment, le seul, je m'acceptais par la seule adhésion de mes pieds au sol, de mes yeux à la lumière. Et au même moment, sur tous les rivages de la Méditerranée, du haut de toutes les terrasses de Palerme, de Ravello, de Raguse et d'Amalfi, d'Alger et d'Alexandrie, de Patras et de Stamboul, de Smyrne et de Barcelone, des milliers d'hommes étaient comme moi, retenant leur souffle et disant oui. Et je pensais que si le monde sensible n'est qu'un tissu léger d'apparence, un voile de chimère changeante que la nuit nous déchirons, et que notre douleur essaie en vain de balayer, il est pourtant des hommes qui, les premiers à en souffrir, reforment ce voile, reconstruisent ses apparences et font rebondir la vie universelle qui, sans cet élan quotidien, se tarirait quelque part comme une source perdue dans la campagne. On me parle. Je me parle à moi-même de carrière à poursuivre, d'œuvre à créer, un but enfin, avoir un but. Mais ces instants n'atteignent pas ce qu'il y a de profond en moi. Le but, je l'ai atteint à certaines minutes, et de nouveau il me semble, espoir presque toujours trompé, que je puis l'atteindre. Mon but ne dépend pas du temps. Et pourtant, je n'ai pu l'atteindre que dans les plus humbles conditions, et par un entier effet de la grâce. Ainsi, un jour, étant monté à pied avec un ami jusqu'à Ravello, qui domine la Méditerranée de ses palais normands et byzantins, je connus, sans que j'y fusse aucunement préparé, une plénitude. Étendu à plat ventre sur les dalles de la terrasse Schimbronn, je me laissais pénétrer par les jeux de la lumière sur les marbres. Mon esprit se perdait dans les jeux de cette transparence, de cette résistance, puis il se retrouvait tout entier. Il me semblait assister à ce spectacle devant lequel s'égarent toutes les intelligences, à une naissance, la mienne. Un autre être ? Pourquoi un autre ? Et il me semblait que je commençais alors seulement d'exister. J'ai gagné, me répétais-je ce jour-là, c'était Noël 1924, j'ai gagné. Tout le monde perd, et puis essaie de se rattraper, mais en vain. Moi, à cette heure que je sais, en cet endroit que je puis dire, j'ai gagné d'un coup tout ce qui pouvait être gagné. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je suis sûre que j'ai gagné tout, d'un seul coup et sans aucun mérite. Par le mérite, on acquiert toutes sortes de choses, mais en une seule minute, peut-on vraiment ? Je sens que ce que j'écris là est profondément immoral. On s'accorde à condamner les loteries, on hait le hasard, on organise l'avenir. Après ces moments que j'ai dit, peut-on vivre ? On se survit, c'est tout. En attendant un nouveau moment imprévisible. Mais qu'importe, puisqu'il m'est arrivé de gagner. Sentez-vous bien la force de ce mot de zéro. Vous passez à l'infini. J'ai gagné. Parlez-vous d'avenir ? Mais après, direz-vous, l'on retombe au néant ? Sans doute. Mais il reste ce fil ténu de lumière qui vous poursuit jusque dans votre sommeil et qui vous avertit qu'autrefois. Et pourquoi, dans un millième de seconde, ne serais-je pas précipité de nouveau au fond de cet être qui m'est plus intérieur que moi-même ? Fleur qui flottait sur la mer et qu'on aperçoit au moment où on y pense le moins, algues, cadavres, mouettes endormies, vous que l'on fend de l'étrave, ah, mes îles fortunées, surprise du matin, espérance du soir, vous reverrai-je encore quelquefois ? Vous seul qui me délivrez de moi et en qui je puisse me reconnaître, miroir sans teint, cieux sans lumière, amour sans objet.
Rivage, une série de podcasts écrits et réalisés par Emmanuel Audon.